France Culture.
À voix nue. Toute cette semaine, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Aujourd'hui, la punition de l'exil.
Vous avez 10 ans, Georges-Arthur Goldschmidt, quand vous êtes obligé de fuir l'Allemagne nazie et vous êtes obligé de vous séparer de vos parents définitivement, pensez-vous. Vous réfugiez finalement dans un pensionnat pour enfants près de Megève, où vous dites ne plus avoir de souvenirs entre 1939 et 1943. 1943, quel moment où vous êtes pourchassé par les Allemands. Alors, comment est-ce possible pour un enfant si jeune de penser que son départ est définitif et de penser que quelque chose d'irréparable a déjà été commis.
Je suppose que le trauma du dernier jour, je peux reconstituer à la seconde près le jour, le 18 mai 1938, quand j'ai quitté mes parents. J'ai beaucoup de souvenirs de l'Italie. Et ensuite, il y a eu...
Vous avez une très belle image sur votre séparation avec vos parents. Ils sont sur le quai et ils ôtent leur chapeau pour se montrer tels qu'en eux-mêmes. Ils savent qu'ils vous laissent partir. Ils savent qu'eux restent dans l'incertitude et les périls. Et le train s'en va et vous dites, tout d'un coup, ils coupaient leur silhouette à la verticale et mes parents disparaissaient.
Voilà. Absolument. Et cette image-là, je ne l'ai jamais oubliée. Mais tout ce qui est ensuite, à partir du moment où je suis arrivé en France, je suis tombé dans cet internat étrange, qui était un internat un peu chic, qui s'appelait le Collège Florimontane, qui était dirigé par une femme à la fois folle et admirable, à qui je dois ma vie, et qui était complètement... qui a une réputation, avait une réputation d'être un peu vraiment malade, et chez qui je suis resté près de 8 ans, sauf avec cette interruption où je séjournais dans cette ferme. Pourquoi je ne me souviens de rien? Si, je me souviens du fait que je ne sais rien de mon apprentissage du français. Mais l'oubli est vraiment réel, sauf quelques rares souvenirs, parce que j'ai été profondément malheureux. J'ai dû vivre au comble du malheur, si bien... que mon inconscient a éliminé cette période qui était vraiment pour moi épouvantable. J'étais un enfant très agité. Les châtiments corporels étaient la règle absolue dans cet établissement. Et j'étais constamment battu. On nous battait à coups de règle sur les doigts, on donnait la fessée, on nous privait de manger. Et j'ai dû être absolument... profondément malheureux, au point que j'ai éliminé la plupart des souvenirs, c'était une espèce de blocage de l'inconscient, jusqu'au jour de 1943, où je suis en train d'écrire là-dessus, où d'un coup, paf, je suis tombé en moi-même, comme si une espèce de sidération existentielle, où tout à coup, vous êtes surpris par votre propre existence, et ça coïncide curieusement avec le fait... que les Allemands sont venus me chercher, mon frère et moi, et j'ai beaucoup raconté ça. La gendarmerie a prévenu, attention, les Allemands montent, l'adjudant-chef de gendarmerie, Marcel Hulot, chaque fois que les Allemands montaient, téléphonaient pour prévenir. Et j'ai croisé les Allemands qui venaient m'arrêter, et qui ont probablement pas compris que c'était moi. Et ça fait un drôle d'effet quand vous voyez orienter sur vous les deux petits trous des mitraillettes, avec le petit trou noir qui vous vise, on n'oublie pas ça. Et à partir de ce moment-là, curieusement, tout s'est mis en place. Alors ensuite, on m'a caché dans deux fermes Et dans cette première ferme, qui était vraiment au pied de ce qu'on appelle les aiguilles Croches, qui sont un massif montagneux très extraordinaire, au-delà de... Aujourd'hui, tout ça est complètement abîmé, il y a des aéroports, c'est totalement mort, c'est un paysage assassiné, mais c'était un paradis au point de vue paysage à cette époque-là. Et j'ai vécu dans une ferme où il y avait 5 vaches, où les gens étaient à peine séparés de l'étable pour tenir chaud, où j'ai passé 10 mois de bonheur absolu. Il y avait l'eau, il n'y avait pas d'eau courante, il y avait tout juste l'électricité. C'était des gens très pauvres. Et où j'ai passé...
Et avec qui vous parliez beaucoup?
Je crois, oui, avec le cultivateur qui s'appelait Denis Morand. C'est des gens très pieux, très, très terrorisés par l'immense environnement de montagne ingrate autour qu'ils habitaient, qui vivaient dans une peur continuelle du péché. Et avec qui j'ai certainement beaucoup parlé, et où j'ai vécu une année enchanteresse. Je passais mon temps à couper du bois avec le paysan, à nourrir les cochons, à traire les vaches. C'était une époque, sauf s'il n'y avait pas eu la peur hebdomadaire des Allemands qui venaient, c'est une des plus belles années de ma jeunesse. Et j'ai vraiment vécu dans une ferme qui n'était même pas crasseuse, où il n'y avait aucun objet brillant. Il y avait simplement les couverts, les assiettes étaient en faïence. La lame d'un couteau, c'est un objet miraculeux, on se regardait dedans comme c'est beau. Moi j'ai vécu vraiment ça. J'ai des gens qui étaient à peine sortis du Moyen-Âge, dans leurs conditions de vie.
Et ces gens-là ont eu peur?
Ils ont eu peur au moment du débarquement, et ce brave cultivateur qui n'était pas très informé, et je comprends d'ailleurs sa peur, m'a tout simplement renvoyé, tel que j'étais venu, avec les vêtements d'emprunt, parce que j'avais plus de vêtements, alors on me donnait un peu ce qu'on pouvait. Et je suis dans le comble de la trouille, fait ce long chemin, il y avait 6 ou 7 kilomètres, pour retourner dans cette maison d'enfant où la directrice, hors d'elle, complètement affolée, commence à s'en prendre à moi, à vouloir me battre. Moi, je me mets à pleurer, je lui explique, et finalement, elle finit par comprendre, et affolée,
elle a cru qu'on vous avait renvoyé parce que
oui,
vous
bien
aviez
sûr.
Mal fait.
Exactement. J'étais insupportable, m'a-t-elle dit. Au moment du danger le plus extrême, et elle téléphone, complètement affolée, au curé, qui était un Italien collaborateur, qui lui dit, mademoiselle, vous savez très bien, je ne peux rien pour vous, mais je vais appeler mon vicaire. Lui va cacher le petit. Peu importe ses calculs, il n'empêche que j'ai été caché par d'autres paysans qui, eux, étaient parfaitement au courant. Qui s'appelle François Allard, qui étaient des gens admirables, et leurs deux filles vivent toujours à Megève. Ça, c'était des gens extraordinaires qui ont assumé le risque. Ils devaient d'ailleurs être payés, je suppose, mais peu importe, ils risquaient leur peau. Et ils ont été des gens, ils ont une espèce de, genre, leur voue, une reconnaissance perpétuelle, ces gens qui ont quand même risqué leur peau, comme cette directrice folle, qui nous envoyait dans le petit bois d'à côté cueillir les badines pour nous donner la fessée, ça, qui était complètement folle, mais qui m'a sauvé la vie, sans la moindre hésitation. Ça. C'est elle qui a organisé mes différentes cachettes. Ça. Mmh. Et donc, je vis dans le paradoxe, ça, le plus entier. Et ça vous donne une espèce de goût de la vie, une espèce d'étonnement de vivre qui ne me lâche pas malgré mes 75 ans. Ça.
Thank you.
Georges Arthur Goldschmidt, vous êtes alors un enfant blessé, malgré tout, encore blessé, tourmenté, puni. Et cette punition régulière, extrêmement humiliante, où on vous déculotte, on vous donne la fessée, où on vous oblige à aller chercher vous-même les badines avec lesquelles on va vous battre, où on vous demande de remercier du châtiment corporel que vous subissez, vous dites que cette punition a entamé quelque chose en vous. Ces punitions répétées, hebdomadaires.
Elles ont, curieusement, et je devais être quelqu'un d'assez insupportable, curieusement, c'est devenu une espèce de rituel. Et j'avais déjà 16 ans. Hein. C'était après, en 44, 45, jusqu'en 46, paradoxalement, j'avais 18 ans. À cette époque-là, nous ne savions pas comment... moi, je ne savais pas du tout... j'avais aucune idée de la manière dont les enfants venaient au monde. Nous étions dans l'innocence la plus absolue. Nous ne savions rien, mais vraiment rien. Et en même temps, on était... Rousseau a tout dit là-dessus, au comble de la perversion. Car ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai converti ça en une espèce de volupté. C'est-à-dire une espèce de... C'est pas du masochisme, c'est une espèce de... On ne me laissait que ça, et ben je vous défie avec ça. C'était devenu une espèce d'emblème de vie. C'était pour moi devenu une espèce de situation triomphale. J'étais devenu invincible. Personne ne pouvait plus rien contre moi. Et c'était une espèce de retournement, je dirais, une espèce de retournement des signes. Comme si le langage s'était inversé. C'est très curieux. Ce qui devait me punir ne me punissait plus. C'est une espèce de négation suprême. Complètement libératrice, c'est très étonnant. Et c'est à ce moment-là que je découvre, comme je l'ai raconté, les confessions qui étaient, j'en ai eu le souffle coupé. Comment se fait-il que l'impossible, la contradiction absolue, soit dite avec tant d'élégance, tant d'innocence, dans cette langue admirable ? Et c'est là que je découvre aussi la puissance extraordinaire du français. C'est là que je suis entré en langue française, qui est, là aussi je suis en train de travailler là-dessus, qui est une langue inouïe. C'est d'ailleurs même plus une langue, c'est une espèce d'understatement, de sous-entendu. Vous ne pouvez pas dire ça en allemand, le mot sous-entendu n'existe pas, ce qui est intéressant.
La plupart du temps, vous étiez puni pour des fautes que vous n'aviez pas commises.
Bien sûr, et je m'arrangeais d'ailleurs pour l'être.
Et vous dites que ça n'est pas du masochisme.
C'est une espèce de triomphe, c'était une espèce d'acquisition, une espèce d'étrange souveraineté, une espèce de liberté. Ça m'a introduit au sein d'une... J'étais orphelin, en plus, cette condition étrange.
Enfin, votre père n'était pas encore mort.
Mais je ne savais pas. Je ne savais pas, de toute façon, c'était...
Oui, dans votre tête, vous étiez orphelin.
Dans ma tête, j'étais solitaire. Et je n'avais d'ordre à recevoir de personne... De cette femme, j'ai tout appris, mais seulement ce que je voulais apprendre. C'était une latiniste extraordinaire. Je lui dois beaucoup, malgré sa folie. Et en même temps, ce jeu de défi était devenu une espèce de joute entre elle et moi. Je vous réduirais, me disait-elle. Ben non, elle ne m'a pas réduit. Et après, elle m'a fait passer le bac. C'était très étrange.
Je voudrais lire le passage que vous avez publié dans « La traversée des fleuves ». Sur la découverte de Rousseau. La directrice vous a donné les confessions qui étaient au programme de la première partie du Bachot.
En 1946.
De 1946, oui, c'est ça. Et alors, il y avait épinglé les pages des fessées, justement. Ouais. Et comme par hasard, vous tombez dessus, bien entendu,
et tout de suite. Les pages de la découverte du plaisir solitaire.
Du plaisir solitaire, bien sûr. Alors, il ne me fallut guère plus d'un quart d'heure pour tomber sur ces pages qui, plus encore que les autres, me semblèrent écrites exprès pour moi. Comme Mademoiselle Lambercier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité et la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants quand nous l'avions méritée. On pouvait donc parler de l'inavouable. Aussitôt après, Je lus ces lignes qui me stupéfièrent et que je cachais de la main pour qu'on ne me vît pas les lire. J'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver de rechef de la même main. J'étais dans un trouble extrême, le sang me battait aux tempes, je n'arrivais plus à respirer et me levais et me rassaillais tout le temps. Les larmes m'étaient venues aux yeux, c'était une libération. Je n'étais donc pas le seul à me trouver dans cet état surprenant. Je n'étais pas seul à goûter étrangement la punition et à en faire l'objet de mes rêveries.
Absolument. Voilà, la Rousseau, découverte. Le fameux passage, Mlle Ambercier, je vous dis, c'est là que je me suis aperçu la signification de la littérature. C'est-à-dire, ce livre m'a vraiment sauvé. Parce que, n'ayant d'instruction de personne, comme le dit si joliment le français, ne sachant rien, n'est-ce pas, tout ce qui est la sexualité était complètement interdit. C'était l'interdit absolu. On nous pourchassait uniquement pour ça. Une surveillance de tous les instants. Et voilà que quelqu'un ose dire des choses pareilles, mais c'était le salut. Moi, je vivais dans cette espèce d'internat catholique, complètement isolé du monde.
Grâce à une parente, vous étiez allé là, grâce à Noémie de Rothschild.
Oui, Noémie de Rothschild était la femme de Maurice de Rothschild, qui est l'un des sénateurs qui ont voté contre Pétain. Et elle était une lointaine cousine de ma mère. C'est très, très compliqué. Je crois que mon arrière-grand-mère était sa grand-mère, ou je ne sais pas quoi, ou la sœur de sa grand-mère, un truc comme ça. Ouais. Et elle était née à Alphen. Elle était parente du grand historien. Et elle, qui est une parente donc, de ma mère, a écrit à ma mère, disant, je sais que tu as des enfants, et elle s'est offerte de nous recueillir. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que j'ai pu, en mars 39, arriver en France, car les frontières étaient complètement fermées. Probablement, je suppose. Et c'est elle qui m'a mis dans cet internat. Je suppose, j'ai jamais très bien su. Je crois que j'étais défalqué parce que cette brave directrice, qui s'appelait Marie-Josée Lucas, a dû emprunter de l'argent à Noémie de Rothschild pour construire sa maison d'enfant. Ou la rehausser. Et moi, je devais défalquer du remboursement. Quelque chose comme ça. Je suppose, j'ai jamais très bien su. En tout cas, c'est par elle que je suis arrivé là. Mmh. Et je l'ai bien connue, d'ailleurs. Ça, c'était une femme extraordinaire. Une femme qui avait une espèce de... Elle était très, très étrange. Très, très belle, d'abord. Elle était une très grande beauté. C'est elle qui a fondé Megev, d'ailleurs. Ça. Mmh. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été dénoncé par quiconque. Mmh. Tout le monde savait parfaitement qui était mon frère. Et moi, mon frère, lui, en 1943, sera caché par le curé de Crévolant. Il s'engage dans la résistance. Il avait 4 ans de plus que moi. Il est aujourd'hui officier à la retraite. Il habite dans le Midi. Et mon frère est un combattant d'une grande noblesse, un grand courage. Et
il a été résistant.
Oui, il a été ensuite engagé dans la 2e DB. Il a fait toutes les campagnes de Leclerc, etc. Et il a fait après Saint-Cyr, est devenu commandant, etc. Mmh. Mmh. Et c'est elle qui nous a pris en charge. Mmh.
C'est d'ailleurs grâce à elle que vous, quand elle apprend que vous êtes battu, que vous quitterez cet internat pour une autre maison d'orphelins.
Voilà. En réalité, moi, je serais bien resté. Car c'était devenu à ce point ambigu,
pervers, carrément.
Oui, que j'étais dans une espèce de relation presque de soumission amoureuse à cette directrice. C'est très très curieux. J'avais 18 ans, rendez-vous compte.
Battu à 18 ans.
Oui, nous vivions dans une espèce de monde clos. Il ne faut pas oublier que le monde a évolué d'une manière tellement radicale. À cette époque-là, il y avait encore des espèces d'isolats. J'allais à la messe et au salut. Je trouvais ça. Je voulais être prêtre à un moment donné. Je vivais dans une espèce de délire. Encore une fois, Rousseau a tout dit là-dessus. Et cette espèce d'adoration. Je crois que le mot masochisme n'est même plus une espèce de souveraineté. J'avais atteint une espèce de rêverie existentielle très étrange. Ça. Heureusement que j'en suis parti. Ça, parce que...
Vous avez parlé dans Narcisse puni, qui est un très bel essai que vous avez publié sur chez Flammarion, je crois. Dans ce Narcisse puni, vous expliquez à un moment donné où vous traversez beaucoup d'histoires d'enfants battus, notamment l'histoire de Carl-Philippe Moritz.
L'admirable Anton Reiser, oui. Qui est le plus beau roman de formation. C'est bouleversant, c'est admirablement traduit en français. C'est un des très grands romans européens. Et vous, Swinburne, bien sûr.
Donc vous racontez, vous êtes revenu sur ce thème que vous avez développé et approfondi. Et vous avez quand même écrit que être battu, c'était un meurtre symbolique.
Bien sûr.
Alors,
bien sûr.
Et vous avez écrit cela et vous avez écrit en même temps que c'était une sorte de divination de soi-même.
Divinisation.
Divinisation, oui.
C'est une espèce de, comment vous dire, c'est à la fois, mais moi je ne voulais pas mourir, moi j'étais plus fort, et ça m'a appris curieusement la sainteté, j'ai horreur du mot sacré, le sacré c'est une espèce de domination du ça, mais je crois la sainteté, mais la sainteté c'est l'être humain.
Mmh. Je voudrais citer un texte que vous avez publié dans Narcisse puni et qui fait réfléchir à tout cela. Tout adolescent qui a crié et bondi sous la badine de coudrier cinglant sa chair nue, tout adolescent qui le souffle coupé de souffrance s'est tordu sous le fouet, exposé au regard intéressé et avide des autres, c'est qu'à cet instant il fut irréductible, qu'il fût saint, châtié pour sa faute solitaire, plongeant au sein de sa propre image, happé par sa propre main, évadé en lui-même, sous l'œil des témoins, sans recours, désormais voué à n'être plus qu'au centre de sa souffrance et de sa honte, objet de son propre désir. Car l'enfant masochiste, ce rêveur de soi, qu'est-il d'autre que Narcisse puni? Mais qu'est-il d'autre que Narcisse se retrouvant, Narcisse corroboré? Vous m'en punissez? Je le suis donc. Cerné par le regard, je me suis délimité par le regard, la souffrance et la honte. Réduit à n'être que l'adolescent puni, je ne puis plus prétendre à rien, je ne suis plus que moi. C'est un très très beau texte qui résume bien le paradoxe dont vous nous parlez.
Oui, c'est ça. C'est ça. Comment dire, c'est une espèce de... Ces éducations étranges et... au fond meurtrière de l'ancien temps, a peut-être sauvé quelques-uns, dont moi. Mais je suppose que ça a dû détruire des milliers, sinon des millions, d'autres êtres humains qui n'ont pas eu la chance de... Vous savez, dans La Marquise d'Eau de Heinrich von Kleist, il y a cette phrase admirable, cette femme... qui se retrouve enceinte, violée quand elle était évanouie, malgré elle, ne sachant pas qui l'a violée. Et il dit, elle se retira de sa propre main des profondeurs où elle était plongée. Et c'est exactement ça. Il y a des gens à qui le destin a donné la grâce ou la possibilité, la force de se tirer du malheur par leurs propres mains. J'ai eu cette chance de pouvoir écrire ça, de le vivre. Ça, mais tout cet équilibre que j'ai acquis grâce à ça, je l'ai acquis grâce à mon mariage, à l'établissement de cette vie normale que j'ai, qui m'a permis de dominer du regard la rupture qui a été mon mariage, ma femme qui est quelqu'un de magnifiquement équilibré, qui m'a complètement... remis dans le monde.
Vous dites qu'elle vous a donné votre légitimité.
Elle m'a donné ma légitimité. Mais il n'est pas sûr que si j'avais continué à vivre comme ça, que je m'en sois aperçu. Je m'en suis aperçu que rétrospectivement. Je n'ai plus le formulé que très tard, ainsi. Mais je suis persuadé que l'indignité humaine n'existe pas. Elle n'existe que quand on fait du mal aux autres. La seule indignité, c'est de faire souffrir autrui, de nuire à autrui. Mais quel que soit vous, ce qui se passe en vous-même, quelle que soit votre perversion qui vous concerne uniquement vous, elle ne change rien à votre sainteté. Le péché commence quand vous faites du mal à autrui. Mais vous, de vous-même, vous faites ce que vous voulez. Je suis en train de traduire un livre étonnant, le dernier que je traduirai, d'un jeune auteur allemand qui s'appelle Thomas Jonick, s'appelle Jupiter. C'est l'histoire de quelqu'un qui va jusqu'aux limites extrêmes de l'autodestruction. Mais en réalité, de la libération de soi, c'est, comment vous dire, ce que je connais de plus abyssal, c'est l'âme humaine.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marcel Lebras, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pascal Werner avec Georges-Arthur Goldschmidt.